Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale, RFI Soir, 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
La suite de RFI Soir, les sports, l'éditorial international et ce qu'il y a à lire dans le magazine L'Équipe. Mais tout de suite, le grand journal avec vous, Adrien Delgrange.
Bonsoir Philippe,
au
bonsoir
sommaire,
à toutes et à tous.
Et Donald Trump qui obtient une dispense de peine dans l'affaire Stormy Daniels.
Le prochain président des États-Unis est reconnu coupable mais n'irait pas en prison et ne paiera pas d'amende. Aux États-Unis, l'autre actualité du moment, ce sont ces incendies qui ravagent Los Angeles, au moins 10 morts. Les feux sont toujours hors de contrôle, Loïc Piala est sur place. Nicolas Maduro, président du Venezuela, pour un troisième mandat. Il a prêté serment cet après-midi. Un coup d'État, répond l'opposition. Nous sommes à Caracas, au Bénin, après l'attaque qui a tué au moins 28 soldats béninois il y a deux jours. La revendication aujourd'hui du JNIM, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Dans ce journal également, l'armée israélienne a bombardé aujourd'hui des cibles houthis au Yémen. Et puis la police ukrainienne se mobilise pour rechercher des hommes en âge de combattre contre l'armée. Mérus nous expliquera Anastasia Becchio. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Adrien, on peut dire qu'un repris de justice entrera à la Maison-Blanche dans quelques jours.
À 10 jours de sa prise de fonction comme président des États-Unis, Donald Trump obtient une dispense de peine dans l'affaire Stormy Daniels. Cette star du porno avec qui il a eu des relations sexuelles et dont il a acheté le silence. En revanche, sa culpabilité dans cette affaire est confirmée. Muriel Paradon, bonsoir.
Bonsoir.
Donald Trump sera donc le premier président américain reconnu coupable au pénal dans l'histoire du pays.
Oui, 34 chefs d'accusation. Donald Trump a été reconnu coupable en mai dernier par un jury populaire d'avoir falsifié des documents comptables pour cacher le paiement de 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels. Il aurait essayé d'acheter son silence après avoir eu des relations sexuelles avec elle. L'affaire remonte à 2016 et la campagne électorale pour la présidentielle, d'où il était sorti victorieux face à Hillary Clinton. Durant son procès ces derniers mois, Donald Trump a nié les faits qui lui étaient reprochés, dénonçant une chasse aux sorcières destinée à lui faire perdre la dernière élection. Il a tout fait pour empêcher la justice d'aller jusqu'au bout, encore hier, avec un appel devant la Cour suprême américaine qui a rejeté cette ultime tentative. Donald Trump, en tant que président élu, est protégé par la Constitution, a rappelé le juge Juan Merchan, mais cela ne diminue pas la gravité d'un crime. Il n'écope donc d'aucune condamnation, mais sa culpabilité reste confirmée et restera gravée dans son casier judiciaire. Il sera donc en effet le premier président américain reconnu coupable au pénal dans l'histoire du pays.
Autre grand titre aux États-Unis, le feu qui continue de ravager Los Angeles à tel point que le président américain parle de scène de guerre.
Au moins 10 personnes ont été tuées pour tenter de venir à bout du brasier puis pour éviter les pillages. Le gouverneur démocrate de Californie ordonne le déploiement de la garde nationale. Loïc Piala, correspondant d'RFI à Los Angeles. Loïc, 3 jours après le début du sinistre, l'incendie est toujours hors de contrôle.
Oui, et déjà, le bilan humain, vous le disiez, 10 morts qui pourraient continuer à grimper à mesure que les enquêteurs vont inspecter les zones affectées, pas toujours sûres d'accès. Les vents sont assez faibles ce matin, en tout cas suffisamment pour que les hélicoptères survolent la zone où je me trouve, à Altadena, autour des montagnes. Et les pompiers ont un peu progressé pendant la nuit. Hier soir, le Eaton Fire, ici à Altadena, à l'est de Los Angeles, était contenu à 0%. Ce matin, 3%. Il a détruit 6000 hectares. Le Palisades Fire, lui, hier avait détruit 8000 hectares, c'est à peu près le même total aujourd'hui. Au-delà de ces hectares, on a vu beaucoup plus impressionnant finalement dans l'histoire de la Californie, mais on a surtout 10 000 bâtiments, des maisons, des écoles, des églises, des commerces, et c'est donc les incendies les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie. C'est Joe Biden qui le dit, et le gouvernement va justement couvrir une partie des frais, la collecte des débris, le paiement des secours pendant les 180 premier jour. Un expert dans le Wall Street Journal estime que le coût de ces incendies va se chiffrer à au moins 50 milliards de dollars. Et puis vous en parliez, un couvre-feu a démarré parce que il y a cette crainte des pilleurs. Je me trouve là face à des membres de la garde nationale qui sont déjà déployés pour permettre également en fait aux policiers de ne plus d'être occupés sur des barrages et de partir patrouiller dans les zones. Ça crée un peu de frustration parce que les habitants voient leur rue, voudraient rentrer, mais la garde nationale les en empêche.
Loïc Piala en direct de Los Angeles, les pompiers américains qui ont donc toujours énormément de difficultés à contenir ces incendies. Un brasier de l'ordre de ce qu'on appelle désormais les méga-feux. Simon Rosé, bonsoir.
Bonsoir.
Les méga-feux amplifiés par le réchauffement climatique, nous l'entendions, se multiplient également.
Oui, leur fréquence a plus que doublé en 20 ans. Ils ne sont pourtant pas si nombreux, seulement 3% des incendies. Mais ils sont cependant responsables de plus de la moitié de la surface brûlée sur la planète. Il s'agit en effet de feux particulièrement remarquables par leur intensité, leur vitesse de propagation et la superficie qu'ils consument.
Et comme en témoigne celui de Los Angeles, en plein hiver, ils s'affranchissent des saisons.
Oui, la période des feux de forêt devient de plus en plus étendue. Elle commence plus tôt, finit plus tard. Et cela tient en effet aux conséquences du réchauffement climatique. On en a eu la confirmation ce vendredi que 2024 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et une atmosphère plus chaude peut également absorber plus d'humidité. On appelle ce phénomène l'éponge atmosphérique. Cela va assécher la végétation, son humidité étant littéralement aspirée par l'air ambiant. Cela donne un combustible idéal pour le déclenchement et la propagation de feux. Amazonie, forêt boréale du Canada, de Sibérie, Australie, sud de l'Europe, presque toutes les régions du monde sont concernées.
Et à chaque fois, Simon, les bilans sont terribles.
Un exemple particulièrement frappant, les feux de 2019-2020 en Australie, 19 millions d'hectares brûlés, près de 500 morts, 3 milliards d'animaux, Adrien, ont péri dans ce qu'on appelle désormais là-bas l'été noir. Et là où c'est également terrible, c'est que ces brasiers alimentés, dopés par le réchauffement climatique, ils y contribuent eux-mêmes, c'est un cercle vicieux. Durant la saison 2023-2024, ils ont relâché près de 9 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'équivalent de 15% des émissions humaines. 400 millions d'hectares étaient alors partis en fumée.
Enfin, ces phénomènes sont si intenses à travers la planète qu'on entend parfois dire, Simon, que nous serions entrés dans le pyrocène, l'ère du feu.
Oui, c'est un concept qui est en train d'émerger, notamment du côté de la philosophie des sciences, et qui cherche à mettre en avant cette différence de nature fondamentale entre un feu de forêt classique, entre guillemets, et un méga-feu. Un méga-feu, c'est un monstre qui dégage 8 à 10 fois plus d'énergie. C'est un feu à qui on ne peut pas faire la guerre, ou du moins on ne peut pas la gagner. C'est un feu qui met tout le monde au même niveau, riche ou pauvre, égaux devant la destruction. L'argent et la célébrité des stars de Los Angeles n'a rien pu faire pour protéger leur maison partie en flammes.
Simon Rosé du service environnement climat pour notre dossier de cette édition.
RFI Soir, il est 14h passé de 7 minutes à Caracas, au Venezuela, où Nicolas Maduro vient d'être investi président pour la troisième fois consécutive.
Et alors que cette réélection est largement contestée, la capitale Caracas est quadrillée par les forces de l'ordre. Nous retrouvons Alice Campagnol, notre correspondante. Une prise de fonction de Nicolas Maduro qui s'est faite dans la tension, Alice, en présence de très peu de chefs d'État étrangers.
Oui, tout à fait. Ils étaient peu nombreux à la cérémonie d'investiture de Nicolas Maduro tout à l'heure. Sans surprise, il y avait le Cubain Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega du Nicaragua, mais aussi le président de la Douma, le Parlement russe. Les pays européens ne reconnaissent pas la victoire de Maduro, donc ils n'ont pas envoyé de représentants, même pas leurs ambassadeurs sur place. Malgré la désapprobation internationale, Nicolas Maduro s'est vu remettre l'écharpe présidentielle pour 6 ans de plus. Dans son discours, il s'est félicité d'avoir su déjouer les conspirations et il a répété comme un mantra, le Venezuela est en paix. Un pays en paix où pourtant, vous l'avez dit, les forces de l'ordre ont été déployées sur tout le territoire. Ici, la capitale, Caracas, quadrillée par des militaires et des policiers. Les frontières sont extrêmement surveillées et celles avec la Colombie ont même été fermées ce matin, unilatéralement par le Venezuela. En effet, Edmundo González, le candidat de l'opposition, avait promis de rentrer dans son pays pour y être le prochain président. Mais c'est bel et bien Nicolas Maduro qui vient de prendre ses fonctions aujourd'hui.
Alice Campagnol en direct de Caracas, une réaction venue d'Europe suite à la réélection du président vénézuélien Nicolas Maduro qui a prêté serment cet après-midi. Il n'a aucune légitimité démocratique, estime la chef de la diplomatie européenne.
L'actualité au Proche et au Moyen-Orient à présent. Tout d'abord, Israël qui bombarde le Yémen.
Oui, plus de 2000 kilomètres séparent les deux pays. Plusieurs installations militaires appartenant aux rebelles houthis ont été ciblées, indique aujourd'hui l'armée israélienne. Cette offensive a été menée en représailles aux tirs de missiles et de drones depuis le Yémen contre le territoire de l'État hébreu. Les houthis au pouvoir à Sanaa ciblent régulièrement Israël depuis le début de la guerre à Gaza en soutien aux Palestiniens, indique-t-il. À Jérusalem, correspondance de Sami Boukhalifa.
20 avions de chasse israéliens déployés à 2000 km de leur territoire, 50 bombes lâchées sur le Yémen, principalement à Sana'a, la capitale, et sur la côte ouest du pays. Dans leur viseur, une centrale électrique et les ports de Hodeïda et de Ras Issa qui abritent des infrastructures militaires selon les autorités israéliennes. La nuit dernière, ce sont les rebelles Houthis soutenus par l'Iran qui ont visé le territoire israélien. En l'espace d'une heure, l'armée de l'air israélienne a intercepté 3 drones lancés depuis le Yémen. Dans un communiqué, le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirme que les Houthis payent un lourd tribut pour leurs attaques répétées contre Israël. Et ce n'est pas fini, l'État hébreu avertit, les dirigeants Houthis seront traqués. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, dans la bande de Gaza, les Houthis ont tiré environ 40 missiles et plus de 300 drones contre Israël. L'aviation israélienne a également bombardé le territoire yéménite à plusieurs reprises. Sami Bourfait, Jérusalem, RFI.
L'ambassadeur d'Iran à Paris, convoqué au ministère français des Affaires étrangères.
Les autorités françaises haussent le ton depuis quelques jours à propos de la situation des 3 ressortissants français détenus à Téhéran. Nicolas Falaise, Paris, exige leur libération immédiate.
La France les qualifie d'otages d'État. Ils ont été jusqu'à 7 ressortissants français emprisonnés en Iran. Il en reste 3. Noémie Collère et Jacques Paris, un couple arrêté en 2022 lors d'un voyage en Iran. Les autorités de la République islamique les ont accusés d'espionnage, ce qui est fermement démenti par leur entourage. Du 3e français détenu en Iran, on ne connaît que le prénom, Olivier. Lui aussi est emprisonné depuis 2022. En ce début d'année, les autorités françaises parlent pour la première fois de torture pour décrire les conditions d'emprisonnement de certains d'entre eux. D'après leurs proches, ils n'ont qu'un accès rare et extrêmement contraint aux communications avec l'extérieur. Ils sont détenus dans des cellules collectives éclairées jour et nuit. Les sorties sont très limitées et seuls quelques livres ont pu leur être remis. Dans ce contexte, la France recommande à ses ressortissants de ne pas se rendre en Iran et de quitter le pays s'ils s'y trouvent déjà.
Et puis dans cette actualité au Proche-Orient, nous retiendrons cette bousculade mortelle aujourd'hui en Syrie, à Damas, dans la mosquée des Omeyyades, lors d'une distribution gratuite de nourriture. 3 personnes sont mortes, plusieurs autres blessées, victimes de cette cohue.
L'Ukraine prévoit des contacts de haut niveau avec la nouvelle administration américaine immédiatement après l'entrée en fonction Donald Trump.
C'est ce que déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Kiev craint de perdre le soutien des États-Unis avec le retour du républicain à la Maison-Blanche. Sur le terrain, les forces ukrainiennes peinent à repousser les troupes russes, en particulier dans la partie orientale du pays. Elles manquent d'hommes motivés et entraînés. Pour tenter de regarnir les rangs de l'armée, la police a lancé une opération contre les réseaux qui facilitent la fuite vers l'étranger des hommes en âge de combattre. Anastasia Becchio.
Plus de 600 perquisitions menées à travers le pays. La police cible les organisateurs et participants de groupements qui ont aidé des centaines d'hommes à franchir la frontière, selon le communiqué publié sur la page Facebook des forces de l'ordre. Faux certificats, pots de vin payés aux gardes-frontières, faux diagnostics ou encore mariage fictif avec une personne handicapée, les exemples sont nombreux. Selon diverses estimations, des milliers d'Ukrainiens ont pu quitter le pays illégalement en payant des intermédiaires ou des passeurs pour échapper à la mobilisation considérée comme injuste et corrompue. Régulièrement, les médias rapportent des cas de décès de personnes qui ont tenté de traverser des rivières à la nage, essentiellement aux frontières avec la Moldavie et la Roumanie. La police précise qu'il s'agit d'une première étape d'une opération visant à fermer ces filières. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, près de 300 procédures pénales ont été ouvertes et 120 fonctionnaires inquiétés selon le bureau d'enquête de l'État. On y retrouve des responsables de centres de recrutement de l'armée, des médecins ou des représentants des forces de l'ordre.
Anastasia Becchio, cette expulsion ratée d'un influenceur algérien. Après l'échec du renvoi en Algérie hier soir d'un homme de 59 ans qui avait proféré des appels à la violence en France sur le réseau TikTok, le ministre français de l'Intérieur hausse le ton, Bruno Retailleau, menace désormais l'Algérie de sanctions. Et puis enfin, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée avec une hausse moyenne d'1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Même si cela ne signe pas l'arrêt de mort de l'accord de Paris sur le climat, les températures caniculaires de 2024 exigent une action climatique novatrice en 2025, exhorte le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est 19h15 à Paris, RFI Soir, la suite avec vous, Philippe Le Caplain.
C'était le grand journal d'Adrien Delgrange qui revient à 20h pour d'autres informations. Dans l'immédiat, les sports. Et pour commencer, du football, Thomas de Saint-Léger, avec le début de la 17e journée de Ligue 1 en France. Alors, deux matchs avancés sont prévus.
Et sont concernées deux équipes dans la bataille pour le podium. Monaco, qui joue en ce moment à Nantes, 0-0 après 10 minutes. Et Lille qui va à Auxerre sans quelques-uns de ses cadres. Jégrova notamment blessé, mais avec Mohamed Bayo, l'attaquant international guinéen, transparent depuis le début de saison. 10 bouts de match et 2 petits buts seulement en Ligue 1. Pourtant, pas question de transfert cet hiver. L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, compte bien sur lui et il le dit.
Momo est un joueur sur lequel je compte. Je l'ai vu depuis le début de saison. J'ai beaucoup de relations avec lui depuis le début de saison. Et sur le dernier match, s'il n'a pas été dans le groupe, il sait pourquoi. Il n'est pas exclu du groupe, ni pour des raisons d'éventuel départ, ni pour d'autres choses. Donc il sera certainement dans le groupe dès ce soir pour se déplacer à Auxerre. Et il fait toujours partie de l'effectif et il fait toujours partie, pour moi, d'une solution pour prendre le relais de Jonah. Maintenant, il sait ce qu'il a à faire pour que ça se passe comme ça. On en a parlé ensemble, ça reste entre nous, ce qu'on s'est dit. Il sait là où il doit faire plus, mieux, mais il sait aussi qu'il a une chance et qu'il n'est pas mis à l'écart.
Voilà, message reçu ou pas par Mohamed Bayo, réponse à partir de 20h05, temps universel, le coup d'envoi de ce match au Serre Lille.
Et du football également en Allemagne, ce soir avec la 16e journée de Bundesliga, avec un match.
Un choc même, le Borussia Dortmund qui doit gagner pour remonter sur le podium, accueille le champion sortant, le Bayer Leverkusen, actuellement deuxième à 4 points du leader, le Bayern Munich. Un match d'autant plus important pour le Borussia Dortmund que c'est un match de reprise après presque 3 semaines de trêve hivernale, le moment idéal pour lancer une série et se replacer. L'entraîneur du club de la Ruhr, Nouri Sahin.
Ce serait très important pour le classement car nous pourrions alors monter tout en battant des adversaires de haut niveau. Jusqu'à présent, nous avons toujours bien joué et nous avons tenu tête à tous ces grands noms, à tous ces grands adversaires, à toutes ces bonnes équipes. Aujourd'hui, nous jouons à domicile, donc nous voulons vraiment gagner le match. Et puis, une victoire dès le début d'année serait aussi un bon présage pour entrer dans le rythme et pour pouvoir prendre beaucoup plus de points cette année par rapport au premier mois de la saison.
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, c'est à partir de 19h30 de temps universel. À noter l'absence toujours côté Leverkusen de l'attaquant nigérian Victor Boniface, blessé en fin d'année avec sa sélection.
Voilà donc pour le football. Le tennis à présent, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, devra s'expliquer en avril prochain devant le tribunal arbitral du sport. L'Italien, en effet, est empêtré depuis l'année dernière dans une affaire de dopage.
Suite à un contrôle positif au Clostebol en mars 2024, Jannik Sinner s'était défendu en plaidant la contamination involontaire. Il avait été blanchi par l'organisme antidopage du tennis. Mais l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, avait fait appel de cette décision et c'est cet appel que doit étudier donc le tribunal arbitral du sport au mois d'avril. D'ici là et d'ici même la décision finale, Sinner pourra s'aligner sur les principaux tournois, à commencer bien sûr par l'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison dans quelques jours.
Et on en parle dans quelques secondes. En biathlon, petit événement, il courait après depuis presque 3 ans, le double médaillé d'or olympique, Quentin Fillon-Maillet, renoue enfin avec la victoire en Coupe du Monde.
Fillon-Maillet a remporté cet après-midi le sprint de l'étape d'Oberhof en Allemagne, victoire d'autant plus belle qu'il est accompagné sur le podium par 2 compatriotes, Fabien Claude, 2e, Emilien Jacquelin, 3e, un triplé que les Français avaient réussi pour la dernière fois il y a 5 ans. Avec déjà Quentin Fillon-Maillet dans le rôle du dauphin, cette fois-ci c'est Martin Fourcade qui s'était imposé à l'époque.
Et puis un mot de voile avec le Vendée Globe, hein, Charlie Dalin fonce vers les Sables d'Olonne.
Et la fin de son tour du monde, Charlie Dalin dispose toujours d'un bon matelas, 175 000 nautiques environ d'avance sur son premier poursuivant, Johan Richaume. Richaume qui en plus vient de connaître une avarie sur l'une de ses voiles. Les deux hommes naviguent au sud de l'archipel des Açores. au large des côtes marocaines.
Voilà Thomas de Saint-Léger, je le disais, le tennis, l'Open d'Australie, donc il commence lundi. Et du tennis dans le magazine L'Équipe de ce week-end, Pierre Calvart, vous en êtes le rédacteur en chef adjoint. Et l'homme qui est à la une de votre hebdo en sera de cet Open d'Australie. Tout sourire, en sweat rose bonbon, il s'agit de l'Américain Ben Shelton.
Vous voyez sur la une, on l'a choisi justement cette photo-là parce qu'il a un sourire qui est sa signature, qui est un peu vraiment une marque de sa personnalité. C'est une personnalité assez radieuse, assez souriante et qui fait toujours du bien dans le tennis. Et puis c'est un personnage, mais c'est aussi une personnalité. Et ça se sent, c'est quelqu'un qui vient sur le court pour s'amuser. Et c'est pour ça qu'il est. Il séduit beaucoup un public qui est un petit peu au-delà des purs spécialistes de tennis.
C'est-à-dire qu'il fait le show.
Il fait le show, absolument. Mmh. Ouais.
Un enfant terrible.
Non, je dirais pas ça. Il est plutôt dans une version plutôt sympathique et après terrible. Oui, au service, je pense que ses adversaires.
Service bourrin, vous dites.
Bourrin, ouais, ouais. Il tourne régulièrement autour des 220 km/h, ce qui est pas mal. Il a un record à 246 km/h à Wimbledon. Donc il sait faire, bon, c'est dû à sa taille, il est assez grand. Mais c'est vrai que l'ATP a besoin de ce genre de personnage pour mettre en avant pour attirer un public un peu plus large.
Et, ouais, dépoussiérer le tennis à papa, dites-vous, sachant qu'il est américain, comme le sont encore McEnroe et Agassi, qui eux aussi, à l'époque, passaient pour des jeunes gens qui mettaient un coup de pied dans la fourmilière.
Ouais, c'est vrai, on pourrait relier à cette époque, ça pourrait être comparable. Bon, alors c'était plus à coup de raquettes cassées, de hurlements sur l'arbitre. Je pense que ça, c'est quand même une autre époque aujourd'hui.
Lui, et lui, c'est quoi son style alors, Ben
Je pense qu'il fait le show. Alors c'est intéressant parce qu'il a joué en université à l'université de Floride où entraîne son père, où son père entraîne les filles. Et je pense que ça vient du tennis universitaire, un peu cette idée de faire un peu le spectacle et de déconner un peu sur le court, quoi.
Du tennis, il y en a encore dans l'équipe magazine ce week-end avec le break d'Amanda Anisimova. Elle revient après ce qu'on peut appeler un burn-out. Elle revient sur les courts, mais également dans les galeries d'art.
Oui, alors elle, c'est tristement banal l'histoire des jeunes joueurs et joueuses qui font des burn-out, qui ont des phases d'épuisement mental, qui proviennent souvent d'épuisement physique. Dans le tennis professionnel, on les prend très jeunes, ils sont pressurisés et c'est vrai que elle on l'avait vu en 2019, elle fait les demi à Roland Garros et puis après elle s'écroule, elle demande une pause, elle obtient sa pause et elle se réfugie dans la peinture et elle trouve que son appartement est un peu vide et que les murs sont un peu vides et qu'elle mettrait bien des tableaux, elle se dit tiens, si je mettais les miens, et puis elle s'y est mise. Bon, elle avait déjà un peu touché à la photo et à la peinture précédemment et puis voilà, elle s'y est mise et puis alors il se trouve qu'en plus elle commercialise ses tableaux au profit d'œuvres au profit d'associations.
Et donc là aussi, elle est talentueuse, comme avec une raquette à la main.
Bon, elle est 36e mondiale, oui, actuellement. Elle est revenue sur le circuit l'année dernière.
En peinture.
En peinture, ça, je vous laisse juger.
En tout cas, elle vend.
En tout cas, elle vend, oui.
Autre histoire, et ça nous amène en France, à Marseille. Vous êtes allé à la rencontre d'un boxeur qui s'est fait remarquer récemment au Mexique. Racontez-nous.
Alors ça, c'est une histoire assez étonnante, c'est un boxeur français évidemment de Marseille qui s'appelle Bruno Suras et c'est un boxeur qui était pas anonyme complet mais il avait une ceinture européenne, il a été deux fois champion de France mais il avait été invité au Mexique pour disputer un combat un peu pour faire briller un héros local qui visait une ceinture de WBC et il a un peu surpris, c'est-à-dire qu'il était censé quand même être
c'était
dominé.
Le challenger et finalement
c'était le challenger et puis il s'est dit je vais pas y aller comme ça les mains dans les poches, je vais étudier les vidéos de mon adversaire et puis il a dit je vais réviser ça comme un partiel pour m'éviter la pression, il a décelé un peu ses forces et faiblesses et sixième round boum il lui met une droite et le gars est KO et il gagne le combat. Donc voilà, c'est un peu l'histoire d'un crochet du droit qui a changé complètement son destin.
Et, donc il attire la lumière sur lui et également sur son club de boxe qui est le plus vieux de Marseille.
Ouais, absolument. Ben, on est retourné là-bas pour le reportage qui est le Sporting Club Marcel Cerdan à Marseille. Et bon, évidemment, lui est très attaché à sa ville, très attaché à son club où il a appris à boxer.
Le Mexique, on y reste avec ce reportage qui concerne une danse aux racines françaises et cubaines. Ce sont des seniors qui dansent. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équipe magazine?
C'est l'équipe magazine. Donc dans l'équipe magazine, il y a l'équipe, certes. Donc il n'y a pas que la Ligue 1 et les résultats purs et durs. Mais effectivement, là, on a un beau reportage photo sur le Danson, la danse, parce que la danse c'est une tradition quand même dans l'équipe magazine. On y revient souvent. Il y a toute une approche du mouvement, du corps qui est importante. Et puis alors là, c'est des personnages assez hauts en couleur.
Ils sont lookés.
C'est les seniors, comme on dit. Troisième âge.
On a l'impression de dire un reportage qui aurait pu être fait dans les années 50.
Exactement. Ah ben c'est une plongée dans les années 50. C'est un cadre incroyable. Au Mexique, ils dansent au Mexique, même si c'est une danse, le Danson, qui est donc qui a des racines françaises et cubaines.
Et c'est donc à lire dans le magazine L'Équipe. Merci Pierre Calvart, rédacteur en chef adjoint.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Le monde en question consacré au fait qu'Israël multiplie les offensives au Proche-Orient contre la nébuleuse iranienne dite de l'axe de la résistance. Alors Cyril Payen, les événements en Syrie ne semblent pas faire changer de cap le premier ministre israélien, toujours sur une ligne résolument pro-guerre.
C'est tout d'abord en raison d'un profond sentiment de surpuissance militaire, largement incarné par le premier ministre va-t-en-guerre Benjamin Netanyahou, qu'Israël continue de foncer tête baissée sur ses ennemis proches et lointains, avec l'aide soutenue de Washington. La Syrie n'est plus la même Syrie, le Liban n'est plus le même Liban, a-t-il récemment martelé, ajoutant « Gaza n'est plus la même Gaza » et même l'Iran a elle aussi ressenti la puissance de notre bras. Il faut dire que la réponse israélienne aux attaques du Hamas a produit une impressionnante tectonique des plaques de la géopolitique du Proche-Orient, impensable il y a encore quelques mois, résultat d'offensives militaires qui ont de quoi donner raison à un chef de gouvernement qui affirme combattre sur 7 fronts simultanés. Les branches armées et politiques du Hamas et du djihad islamique à Gaza sont décimées, bien que non vaincues, alors que l'enclave palestinienne a été transformée en charnier à ciel ouvert après 15 mois de bombardements d'une violence inégalée. Au Liban, la milice chiite du Hezbollah, pourtant redoutée, a été défaite en quelques semaines de combat, sa direction politique et opérationnelle anéantie au prix de centaines de morts civiles, et de sérieux doutes persistent sur les intentions israéliennes, mettre fin ou non à l'occupation de fait du Sud-Liban, quand le cessez-le-feu de 60 jours expirera le 27 janvier.
Ce revers historique de l'axe de la résistance pro-iranien offre également à Benjamin Netanyahou une porte de sortie personnelle inespérée.
Cette fuite en avant à marche forcée et ses succès indéniables du premier ministre israélien est évidemment politiquement opportune. Elle lui permet de se maintenir au pouvoir dans un équilibre instable, certes, alors qu'une partie de l'opinion publique lui reproche une guerre sans but et sans fin et de ne pas avoir tout fait pour libérer les otages encore retenus à Gaza, et que sa responsabilité dans la faille sécuritaire qui a permis les massacres du 7 octobre n'a toujours pu être établie, faute de la formation d'une commission d'enquête. Sur le plan juridique aussi, Netanyahou est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance, et son procès a constamment été repoussé à cause d'un conflit auquel il n'a donc aucun intérêt à mettre fin.
Encore une question, peut-on parler de victoire définitive, irréversible ?
Nombreux sont les experts qui estiment que le chef du gouvernement israélien serait tenté par reconfigurer le Moyen-Orient dans une sorte de Pax Israeliana, une paix sous domination israélienne, profitant des flottements politiques de l'après-Bachar dans la Syrie voisine, de la perte d'influence de l'Iran et de ses affidés, et de l'abandon total de toute tentative de résolution de la problématique palestinienne. Reste que la région, dont l'imprévisibilité et la complexité sont proverbiales, regorge d'éléments déstabilisateurs, comme par exemple les rebelles houthistes du Nord-Yémen, qui multiplient les attaques contre Israël et perturbent dangereusement le trafic maritime mondial en mer Rouge. Quoi qu'il en soit, l'année 2025 sera aussi celle du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et Benjamin Netanyahou, son meilleur allié, sait parfaitement que cela sera sans doute providentiel pour le destin expansionniste d'Israël et donc du sien.
Cyril Payen pour Le Monde en question. Dans une minute, l'actualité en Afrique.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Alors que Donald Trump s'apprête à revenir au pouvoir, que faut-il attendre de son duo avec Elon Musk, l'entrepreneur à succès entré de plein pied dans la sphère politique? Avec nos invités, nous analyserons plus largement le rôle public des milliardaires, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe et en Afrique.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, Idée, Pierre-Edouard Deldic.
À l'heure de la guerre en Ukraine, le nationalisme russe, ou plutôt les nationalismes russes, vont être au cœur de notre émission avec l'historien Jules Sergueï Fedyounin.
Le nationalisme peut prendre des formes variées selon le contexte, parfois en soutien de l'État, mais souvent contre l'État existant.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.